Je vous présente nos trois invités de ce jour. Alors d'abord, Isabelle Kaufmann, qui est médecin. Vous êtes otorhino, comme on dit chez nous, à Lyon, et qui écrit des livres. Alors au départ, c'était des livres qui ne s'intéressaient pas du tout à son domaine de compétences. Ne regardez pas le voleur qui passe en 2006. C'était un héros qui essayait, comment dire ça, d'attraper des morceaux de vie, de voler des morceaux d'existence à des gens comme vous et moi. Il y avait ensuite Grand 8 en 2008, où il s'agissait de s'interroger sur l'idée de comment est-ce qu'on pouvait rembourser le temps perdu ou des choses de ce genre. Donc c'était aussi un livre qui avait été remarqué. Et il y avait un livre ensuite où vous avez exploré un peu les rapports entre les hommes, enfin entre les êtres humains et les animaux, qui s'appelait Cabaret sauvage en 2013. Et puis là, vous sortez un livre qui est consacré à, au fond, la première infirmière libérale, comme on dit, qui a exercé à Lyon en 1947, qui, dans le livre, je ne sais pas si c'est son vrai nom dans la vie, s'appelle Marie-Antoinette, et qui, au fond, raconte son existence. Vous l'avez fait, au fond, de manière un peu romancée. Vous y avez ajouté aussi des éléments qui viennent de votre pratique à vous. Et c'est un livre tout à fait bouleversant que je vous recommande et dont on va parler tout de suite. Ensuite, je vous présente Cédric Gras, qui, lui, signe Anthracite. C'est son premier roman. Alors, Cédric Gras, c'est d'abord un écrivain, comme on dit, vous savez, on dit écrivain voyageur. Alors d'abord, il aimait l'alpinisme, il aime toujours, j'imagine, l'alpinisme, marcher en montagne, etc. Et puis en 2006, il a fini, il est allé, enfin, au début des années 2000, il est allé faire ses études en Russie, dans la bonne ville de Omsk, où il les a finies en 2006. Et puis ensuite, il a développé une passion pour ce pays et ses diverses provinces. Il est allé fonder l'Alliance française de Donetsk en 2011.
Oui.
Vous êtes resté à la tête de cette alliance française jusqu'en 2014. Puis après, il y a eu évidemment la guerre en Ukraine. Vous êtes retrouvé à Kharkov, puis à Odessa. Et puis, vous avez écrit beaucoup de livres en attendant. Vladivostok, Neige et Mousson en 2011, qui était un récit de voyage, ainsi que Le Nord Céleste en 2013, L'Hiver aux Trousses en 2015. Et ça, c'est votre premier roman, qui est en fait issu de cette expérience difficile qui a été la guerre en Ukraine, et qui raconte l'itinéraire d'un chef d'orchestre amoureux d'une violoniste de l'orchestre. Jusque-là, c'est très romanesque, mais qui doit s'enfuir suite à une affaire d'hymne national jouée devant les mauvaises personnes au mauvais moment, et qui se retrouve perdu dans cette guerre d'Ukraine avec un ami qui ne pense pas peut-être tout à fait la même chose que lui de ce que devrait être l'avenir de l'Ukraine et de la Russie. Donc c'est un très très beau roman qui concilie alors effectivement le goût du voyage. Notamment, il y a un talent de conteur et de j'ai envie de dire, de ça a l'air bête à dire que les descriptions sont très bien, mais en l'occurrence, on voit bien que c'est quelqu'un qui a passé par ce travail aussi de l'écriture du voyage, et qui, à travers ce livre, nous raconte effectivement beaucoup de choses qu'on ignore sur la guerre en Ukraine, et à travers un grand récit romanesque. Et puis, alors, Pierre Assouline, je ne sais pas trop comment le présenter, parce que, évidemment, ce serait très long.
Ne le présentez pas.
Oui, mais la formule, on ne le présente plus. Alors, on ne sait pas par où commencer. Vous savez, il a écrit des. C'est un journaliste, c'est un reporter, c'est un homme qui a fait des bios d'un nombre invraisemblable de personnalités, de Simenon à Gaston Gallimard, d'Hergé à Albert Londres, Jean Jardin aussi, le grand-papa d'Alexandre, qui est venu quelquefois ici aussi, avec qui vous avez parfois polémiqué parce que vous n'avez pas aimé ensuite la façon dont Alexandre a parlé de son grand-père. Vous êtes chroniqueur, vous êtes membre de l'Académie Goncourt. Vous avez d'ailleurs écrit un livre sur l'aventure des Goncourt. Vous avez un blog, La République des livres, qui est sans doute l'un des plus lus parlant de littérature en France. Vous avez aussi écrit beaucoup sur la Deuxième Guerre mondiale à travers divers ouvrages qui peuvent être très différents les uns des autres. L'épuration des intellectuels, un livre, un roman sur le Lutetia. Merveilleux hôtel de la rive gauche qui est actuellement en réfection et qui va devenir beaucoup trop cher pour que nous y retournions. Et puis, vous avez aussi écrit Sigmaringen, un livre tout à fait étonnant qui racontait comment le gouvernement de Vichy en France, à la fin de quand il a dû s'exiler de Vichy, s'est retrouvé dans cet endroit incroyable qui était Sigmaringen pour faire une sorte de goutte d'étrange gouvernement en exil. Et c'est pour ce livre Sigmaringen que vous avez notamment gagné le prix du Salon du Livre de Genève. Je crois que c'était l'année dernière, si je ne me trompe pas. Vous êtes ici pour un dictionnaire amoureux des écrivains et de la littérature. Et c'est très drôle. Parce que, alors évidemment, quand vous êtes demandé à. Les dictionnaires amoureux sont généralement des livres qui sont finalement. Ils ont l'aide. Il y a une sorte de promesse étrange. Quand on croit que c'est un dictionnaire, on se dit que ça va être quelque chose d'un petit peu austère. Et puis, les années passant, cette collection s'enrichit vraiment d'ouvrages de plus en plus, on va dire, personnels. je vous cite comme ça par hasard parce que ça m'a fait rire, parce que je n'étais pas tout à fait d'accord avec vous, mais enfin ça m'a fait rire, la notule sur Eco Umberto, 1932-2016, où il est écrit « Écrivain largement surévalué, enseveli à sa mort sous une coulée européenne de superlatifs, un malheur lui était arrivé, donc aucun universitaire ne se serait remis le succès. » Après un malicieux et inspiré nom de la rose, il écrivait des romans de plus en plus ennuyeux et inintelligibles de la masse des lecteurs qui lui firent fête. Dans l'un d'eux, la résolution de l'énigme figurait in fine en latin non traduit. Au fond, un hypermnésique dont la culture finissait par assommer l'interlocuteur épuisé par son verbe, capharnaüm d'idées et de références, à l'écrit comme à l'oral. Bon, alors vous voyez, donc, ça a beau être un dictionnaire amoureux des écrivains de la littérature, il y en a qui ont des traitements très différenciés et c'est désopilant. Pierre Assouline en a rencontré un certain nombre, il raconte aussi des anecdotes. Donc on n'est pas dans quelque chose de l'austérité. Et c'est un livre évidemment que je vous recommande parce qu'on peut le piquer à n'importe quelle page, on rit, on s'étonne, on apprend des choses sur les écrivains, c'est tout à fait formidable. Voilà. On va commencer par Isabelle Kaufmann parce que alors, la seule méthode dans ce genre de débat où les livres sont très différents, je ne peux pas leur dire à tout le monde alors la guerre en Ukraine. Ou alors les infirmières. Donc je vais parler un petit moment avec Isabelle Kaufmann, un petit moment avec Pierre Assouline, un petit moment avec Cédric Gras, et puis ensuite on vous pourrez aussi bien évidemment
poser des questions. C'est vrai qu'on vous entend pas très bien parce que j'ai pas l'impression que le micro.
Oui il marche.
Là oui, vous êtes plus près.
Ça. Oui c'est il marche. Voilà, c'est ça qui me parlait trop loin du micro. Non mais je crois que vous m'entendiez. Vous avez rien raté. Vous voulez que je recommence?
Non, il faut recommencer.
Alors Isabelle Kaufmann, donc c'est Les corps fragiles. Alors, racontez-nous, au fond, la jeunesse de ce livre. Vous rencontrez, en fait, un jour, cette dame, Marie-Antoinette, qui est la première infirmière libérale de Lyon, qui va chez les gens et puis qui se met à vous raconter des choses de son expérience. Elle a été pendant 40 ans infirmière, ou même plus, hein, nettement plus. Et au fond, vous racontez comment cette aventure peut devenir comment cette aventure est devenue pour vous un thème d'écriture. Vous n'aviez jamais écrit sur les choses médicales.
En effet, bien que je pense que toute l'écriture s'est nourrie de mon expérience malgré tout, parce que peut-être plus que, vous me direz, c'est de l'expérience de la vie, mais peut-être plus qu'ailleurs, quand on pratique la médecine, on est vraiment confronté à ce qu'on appelle la comédie humaine, puisqu'on assiste aux émotions les plus extrêmes de l'être humain, que ce soit la souffrance, la joie, l'espoir ou le désespoir. Donc, je pense que c'était déjà, même si c'était dans des fictions, ça nourrissait beaucoup de tout ce que j'ai pu écrire jusqu'à présent. Mais c'est vrai que là, alors que c'était... Je l'aurais jamais pensé moi-même. Je me retrouve face à une personne. Et voilà l'histoire d'une rencontre. Et je crois que les livres sont comme la vie. Ils s'écrivent vraiment à partir de rencontres. Et ce livre s'est écrit à partir de cette rencontre-là. Et d'ailleurs, mon héroïne raconte sa vie, elle aussi, à partir d'une rencontre. À savoir, elle m'explique que quand elle était enfant, toute petite... Elle vivait dans un village de la région lyonnaise. C'était une famille nombreuse, assez modeste. Ils étaient 9 enfants. Et puis voilà, Marie-Antoinette, la petite Marie-Antoinette, qui rentre de l'école en sautillant sur les chemins, si on peut dire, toute heureuse, toute insouciante, et qui rejoint sa mère qui discute sur le pas de la porte avec la vieille voisine. Et voilà que cette petite écoute. Et puis tout d'un coup, ses yeux tombent sur les mains de cette vieille dame. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit des mains déformées. C'est une femme qui souffrait de polyarthrite rhumatoïde. Des mains déformées, monstrueuses, douloureuses. Et cette femme qui dit « Je n'y arrive plus, je ne peux plus mettre mes bas, je ne peux plus... Bon. » Et voilà que cette petite découvre d'un coup, brutalement...
Elle a 6 ans à l'époque. Hein,
elle a 6 ans. La maladie, la souffrance, peut-être l'idée de quelque chose qui peut arriver jusqu'à la mort, finalement. Et c'est une espèce de révélation. Elle se dit, elle est révoltée, elle dit, c'est injuste. Pourquoi des gens vivent ça? Et nous, on est bien, et on a tout ce qu'il nous faut. Et elle se dit, moi, ma vie, ce sera aider, soigner. Je veux faire ça, je veux aider tous ceux qui souffrent. Et voilà comment une vocation naît. Et je trouvais cette histoire assez belle. Ça m'a donné envie d'écrire la suite, parce que finalement... Cette petite Marie-Antoinette va réaliser son rêve d'enfant. Alors, elle va faire ses études d'infirmière. Tout ça se passait en 1935. La guerre passe et au sortir de la guerre, elle a fini ses études et elle exerce et elle découvre. Avant de découvrir la maladie, elle découvre le corps. Parce que Plus que jamais, moi qui suis médecin, donc j'ai vécu ça dans un autre, je dirais, un petit peu transposé, mais finalement, on est comme tout le monde. Et puis, du jour au lendemain, quand on revêt une blouse blanche, on a le droit d'aller regarder, toucher, tout faire sur le corps des autres. C'est quand même assez étrange, si on y réfléchit. Il y a tous ces orifices dans lesquels on peut rentrer, sortir, explorer. Et puis nous, on est derrière notre blouse blanche et finalement, on efface notre humanité vis-à-vis de ça. Donc Marie-Antoinette, elle va découvrir le corps humain et puis en même temps, bien sûr, la maladie, la douleur, mais en même temps, tout ce que ça peut véhiculer dans les deux sens. Parce qu'il y a ses patients et puis il y a le soignant en face. Et sans oublier que le soignant est lui-même un corps. Donc tout ça, ça m'intéressait de réfléchir là-dessus. Alors, bien sûr, grâce à ce personnage que j'ai interviewé plus d'une fois pour construire mon récit, j'ai eu des anecdotes, mais j'ai rajouté beaucoup de mon vécu de jeune interne.
Quand vous l'aviez rencontré pour qu'elle vous raconte, vous aviez très vite compris que vous alliez en faire un livre, ou bien au départ, vous êtes dit, tiens, mais je suis médecin, ça m'intéresse parce qu'il y a quelque chose au fond d'un peu historique. C'est,
oui.
C'est précisément quelqu'un qui commence sa carrière à la fin de la guerre, je crois en 1947, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est aussi quelque chose de particulier d'aller recueillir ses souvenirs. Vous avez tout de suite compris que vous aviez là le matériel pour faire un livre ?
Eh bien, pas du tout.
Oui, j'en incline mieux.
Pas du tout. Voilà. Vous m'entendez ? Quand je parle ?
Non, c'est moi.
Pas du tout, je vais vous dire, je suis allée à reculons, parce que moi, ce qui m'intéressait dans l'écriture, c'était d'inventer des histoires, d'inventer des personnages. Et je me suis dit, mais c'est quelqu'un qui m'a proposé de le faire. J'ai dit non, moi, c'est pas du tout. Et puis, d'abord, l'histoire des mains m'a plu, m'a touchée. Et puis, ça devait correspondre à quelque chose dans ma vie, parce que c'est peut-être le moment pour moi aussi de parler de ça. Et je m'en doutais pas. Ça a été presque un déclic. Et quand je dis que les livres s'écrivent à partir d'une rencontre, c'est tout à fait vrai. Marie-Antoinette, elle rencontre sa voisine quand elle a 6 ans, les mains de sa voisine. Moi, je rencontre Marie-Antoinette. Et finalement, ce livre qui devait couver quelque part en moi, bah, je l'ai écrit à ce moment-là. Alors, ce que vous dites, c'est très juste, parce qu'il y avait aussi le côté historique qui m'a plu, à savoir qu'à travers tout ce que je vais raconter, il y a l'évolution de la médecine à partir de, enfin de la, dans la deuxième moitié du siècle qui vient de s'écouler. À savoir que, par exemple, au sortir de la guerre, la maladie, qu'est-ce qu'on soignait ? C'était la tuberculose. C'était tout le monde. Vous savez que ça a dévasté l'humanité, la tuberculose. Et encore là, eh ben, qu'est-ce qu'il y avait ? La tuberculose pulmonaire. Mais il y avait les enfants qui avaient des méningites tuberculeuses, il y avait la tuberculose osseuse. Mais moi qui suis otorhino, les gens qui venaient de l'extérieur, j'ai même opéré des tuberculoses de l'oreille dans des pays qui n'avaient encore pas les traitements au début. Parce que maintenant, bon, j'ai pas l'âge de Marie-Antoinette quand même. Mais tout ça pour dire que Marie-Antoinette, elle arrive au moment où on a des antibiotiques qui arrivent. Miracle. On a des antituberculeux. Et enfin, ces malades, on peut les soigner. Enfin, ces malades, on peut les sauver. Donc déjà, ça m'intéressait de savoir comment tout ça, elle l'avait vécu. De la même façon, par exemple, les malades psychiatriques, moi, je raconte des scènes un peu cocasses, mais en réalité tragiques, de malades psychiatriques qui délirent. Tout d'un coup, arrivent les neuroleptiques. Et en donnant les neuroleptiques, qu'est-ce qu'on va faire ? On va permettre à ces patients de vivre dans la société. Donc, c'était intéressant de suivre, à travers cette vie que je vais raconter aussi, l'évolution de la médecine, qui a eu des énormes avancées. Mais je veux dire une chose, c'est que faire un livre de témoignages, ça ne m'intéressait pas. Ce n'est pas pour ça que j'écris. J'admire beaucoup les gens qui le font, c'est pas ce que je veux dire, mais ce n'était pas ce que je voulais faire pour écrire. Donc, mon but, c'était quand même d'en faire un objet littéraire, de faire un roman, parce que mémoire d'un urgentiste, d'une infirmière, tout ça, je respecte absolument, mais ce n'était pas ce que je voulais faire. Je voulais vraiment que ce soit un roman et qu'il y ait une réflexion sur autre chose, à savoir sur le corps. Par rapport à la maladie.
Comment vous avez décidé Enfin, quand on discute avec comme ça Marie-Antoinette, on se dit beaucoup des histoires que vous racontez, qu'elle raconte, sont des, ou vous racontez, puisque vous avez aussi une part romanesque dans cette affaire, c'est souvent des choses très, très émouvantes. Comment on, est-ce que quand on discute avec elle, on la pousse vers les émotions ? C'est venu très naturellement, parce qu'il y a des choses, quand on soigne les gens, qui sont de l'ordre du banal, où il ne se passe rien de spécial, et on voit bien qu'au fond, les épisodes que vous racontez sont tous, moi je vous dis, on est souvent ému aux larmes en lisant ce livre parce qu'on se, on se dit, ouais, bon, ben, effectivement, on va tomber dans la mémoire d'une urgentiste, et puis on se retrouve dans des choses extrêmement fortes du point de vue humain. Donc, est-ce qu'à un moment donné, vous, je sais pas, vous la poussiez à dire des choses émotionnelles, ou c'est très naturellement que les souvenirs qui restent sont évidemment ceux qui vous ont touché? Comment on travaille? Comment on discute avec elle?
C'était, alors, en même temps, c'est une dame d'un certain âge, mais qui...
C'est assez intrusif, j'entends, oui, dans la discussion.
C'est vrai. Donc, il a fallu quand même que je posais des questions. Bon, selon le plan que vous connaissez, je la mettais sur un thème.
Ah, donc vous avez déjà pensé au thème quand vous dites... Parce que le livre, c'est à ça que ma copine fait référence, est divisé dans les différentes parties du corps. Il y a la tête, il y a les jambes, il y a le sexe, il y a... Donc, on va comme ça d'exploration en exploration sur le cœur, sur des choses très diverses. Donc, c'est des chapitres comme ça, ouais, qui permettent de...
Anatomique,
on va dire. Des chapitres,
voilà,
anatomiques.
Voilà, parce que le faire de façon chronologique me paraissait un peu convenu. Donc, voilà, j'ai décidé de le faire sous forme comme un livre anatomique. Et effectivement, je commence par les mains, puisque c'est les mains qui ont déclenché cette belle vocation, ça veut dire. Puis après, j'enchaîne, effectivement, avec la tête, le cœur... La voix, parce qu'il se trouve que ma spécialité, dans la spécialité, c'est la voix et la chirurgie des cordes vocales. Donc, j'ai vraiment scindé tout ça par secteur anatomique. Alors, pour répondre à votre question, c'était simplement que, effectivement, je lui disais... Alors, il y a des choses qui reviennent, comme quand on se souvient très spontanément, d'autres moins. Mais ce qui m'a plu, c'est que Marie-Antoinette, c'est quelqu'un d'assez réservé. Je ne voulais pas faire dans le pathos. Elle n'était pas là à me dire « Oh là là, vous savez ». Non, non, elle était assez sobre. Mais quand même, ce qui revenait, c'était qu'avant, les gens étaient d'une grande solidarité. Elle soignait des gens plutôt modestes, on va dire. Et elle m'explique que voilà, toutes les générations vivaient ensemble. Il y avait les parents, les enfants, les grands-parents. Et elle m'a beaucoup parlé de ce vécu, elle revient beaucoup sur ce qu'elle a ressenti sur le plan social, de familial, qui a changé. Et c'est vrai qu'elle m'a raconté de l'air un peu détaché, avec son petit sourire, parce que c'est quelqu'un comme ça, issu d'une famille suisse, d'ailleurs. Et elle m'a dit, avec mon éducation protestante, toujours... D'où peut-être son ressenti des sœurs dans les soignantes, bonnes sœurs dans les hôpitaux. Elle est un petit peu, j'ai même atténué un petit peu ses propos. Donc tout ça pour dire que c'est venu assez naturellement, parce que cette femme s'est épanouie, n'a pas banalisé la souffrance de ses patients, mais est allée vers, à la recherche de ça, et elle le vit d'une façon, je dirais, sereine, mais parfois raconte en effet des choses terribles.
Évidemment, une question classique dans ce genre de choses, c'est ensuite, vous avez commencé à écrire, est-ce que vous lui avez montré des bouts au fur et à mesure pour lui montrer à quoi ça pouvait ressembler? Évidemment, je pense par contre, le livre terminé, elle l'a lu. Elle en a pensé quoi?
Alors, j'étais en effet assez curieuse de connaître. Je me suis dit, ça doit faire un drôle d'effet de voir sa vie, même si... Il y a plein de choses, plus ou moins, voilà. Ça m'a gênée même par moments, mais elle était très touchée, très heureuse. Alors, dans la sobriété, toujours, hein, j'ai pas eu de... Mais enfin, elle m'a remerciée. Et je crois que ça... Oui, ça a été une grosse émotion pour elle. Ça lui a fait très plaisir.
Si vous avez des questions pour Madame Kaufmann, vous pouvez déjà lever la main maintenant, parce que on va ensuite parler d'autres livres. Alors, soit vous gardez vos questions en réserve, mais ça va partir dans tous les sens ensuite. Donc, si quelqu'un d'entre vous a une question, qu'il n'hésite pas. Tout de suite. Parce que d'accord. Oui. Ah, vous en avez un micro qui bouge. D'accord.
Quand vous dites que vous avez atténué ses propos, comment vous gérez votre parole, la sienne?
J'ai vite cerné la personnalité de Marie-Antoinette, et même je me disais la fameuse phrase de Gide, il n'y a pas de bonne littérature, je ne sais pas s'il l'a vraiment dite, je demande confirmation au maître, avec de bons sentiments, je me disais mince, je suis en train de raconter l'histoire d'une femme extraordinaire, généreuse et dévouée, il y a une faille quelque part, c'est pas possible.
Jour de Mère Teresa, je raconte...
et parce qu'elle est comme ça, quand même assez. Et elle m'explique que sa vie, c'est d'aider les autres, d'aller vers la souffrance, etc. Et je me disais, bon, finalement, les mauvais, ce sera d'abord la maladie, ces corps souffrants, et puis des patients, j'en parle d'un certain nombre qui sont un peu ce qui, eux, feront le mal dans l'affaire. Et puis, je ne veux pas du tout critiquer cette femme, parce que je persiste à dire que c'est quelqu'un d'extraordinaire, mais au fond, je me suis posé la question de ce qu'on peut se poser vis-à-vis des gens qui vont dans les ONG et tout ça, que je respecte et que j'admire, mais quelque part, où ça s'arrête, l'altruisme, et où il y a une espèce, je dirais, d'orgueil, d'idée de se dire... je suis là pour soigner, pour sauver, mais c'est, je pense, de l'ordre de l'inconscient. C'est quand même des gens qui sont d'une générosité extraordinaire. Et en partie, quand je dis qu'elle, les sœurs, les bonnes sœurs qui étaient les premières soignantes dans les hôpitaux, aux hospices civils de Lyon et dans beaucoup d'hôpitaux, en fait, n'avaient pas de formation véritable d'infirmière. Il y avait des femmes très dévouées, puis il y en avait qui étaient mises là parce que les parents sans argent les avaient mises au couvent, et souvent des filles sans instruction et qui étaient brutes, presque sadiques. Et j'en ai fait état, mais la jeune Marie-Antoinette, elle avait observé des choses assez terribles. J'en parle, mais j'ai atténué sans atténuer, mais je voulais pas non plus soulever un débat qui n'était pas le bon.
Une autre question ? Ah, il y a une question encore là.
Bonjour et merci. Est-ce qu'elle s'exprime aussi sur d'où elle vient ? Parce que je suis frappé qu'une enfant de 6 ans soit pareillement déterminée dans le reste de son existence, simplement d'avoir vu ses mains polyarthritiques, et qu'à 6 ans, elle aurait pu passer à côté, être impressionnée un moment, puis ensuite l'oublier. Alors, vous avez évoqué son passé suisse protestant, mais est-ce qu'elle dit d'où elle vient ?
Eh bien, c'est exactement une question très juste, parce que je le redis de la même façon qu'elle me l'a redit tout du long de mes entrevues avec elle. Cette force que j'ai en moi, ça vient de mon enfance, de la nature, de la campagne, de l'harmonie, de l'équilibre, de tout ce que j'ai assimilé. Et elle rattache ça à son enfance rurale, mais aussi à son éducation protestante. Je crois qu'elle a été élevée avec des parents à la fois exigeants, très aimants, eux-mêmes tournés vers les autres. Et c'est quelque chose qui revient tout le temps. Et elle me disait, moi, de toute façon, cette espèce de force, de positivité qu'elle a, moi, ça me vient de mon enfance à la campagne. C'était cet équilibre. Et puis mes parents, mon éducation protestante. Voilà, ça, c'est, elle me l'a redit de très nombreuses fois. Je l'ai rencontrée à 87 ans.
Voilà. Elle a toujours bon pied, bon œil, elle va bon bien. Donnez-lui des nouvelles.
Bon pied, bon œil, elle est sacrément... on a parfois... Là, on a eu une interview croisée dans le Progrès, le journal lyonnais. Et oui. Alors, au début, elle me disait, vous savez, moi, je suis un tout petit maillon. Mais quand je lui dis, vous savez, Marie-Antoinette, pour le livre, ce serait bien, parce que, bon, j'en étais un peu talonnée. Elle a dit, d'accord, t'es pas contre, hein.
Est-ce qu'il y avait chez vous quand même l'ambition, parce que vous avez tout à coup trouvé là un matériau romanesque, au fond, de quand même, vu que c'est le thème du débat d'aujourd'hui, de rendre hommage à cette profession d'infirmière. Vous en avez croisé beaucoup dans votre pratique quotidienne. Et il y avait quand même au départ l'idée de dire, bon, OK, c'est des gens qu'on croise qui font souvent des petites choses, des actes médicaux, maintenant, même si maintenant ça a beaucoup changé précisément depuis quelques années. Mais est-ce qu'il y avait cette idée de l'hommage ou de rendre grâce, au fond, à ces gens qui sont souvent un peu oubliés ? Moi, je suis un enfant d'urgence, mais dans l'urgence, on suit les toubibs. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, enfin, oui.
C'est un peu vieux. Pour...
Oui, et je dois dire que même moi, en étant, je veux dire, médecin, ça m'a même posé problème, parce que j'ai fait parler une infirmière et je ne voulais pas faire un livre pour les infirmières. C'est un livre qui s'adresse à tout le monde, mais je respecte et j'admire beaucoup, parce que même le rapport au corps n'est pas le même. Les infirmières sont vraiment au contact absolument, et on le voit dans le livre, c'est à ce moment-là que les patients se livrent. Pendant qu'on fait un pansement, ben voilà, quelqu'un va dire quelque chose qui n'a rien à voir avec ça, qui va parler de sa vie, de ses émotions, de ses angoisses. ses enfants, par exemple. Et c'est vrai que je pense que le rôle, c'est un travail d'équipe, hein, de soigner des malades. Et chacun a son rôle. Et oui, je rends hommage, je suis heureuse de rendre hommage à ces infirmières aussi à cette occasion-là.
Je vous remercie. On va passer à l'Ukraine. Mais je vous recommande vraiment ce livre. Alors, vous avez des séances de dédicace après, je le répéterai, si j'imagine. Parce que c'est vraiment pas un livre, comme Madame Kaufmann l'a dit, de témoignage ou un truc niant-niant, en disant, bon, ben voilà, la jolie vie de Sainte-Marie-Antoinette. Mais c'est un vrai volume d'émotions fortes qui raconte vraiment l'aventure d'une femme de façon romanesque, au fond. Et effectivement, on apprend plein de choses sur la vie des infirmières à travers le siècle, mais ce n'est pas le but de l'opération. C'est un vrai objet littéraire et c'est très, très émouvant. Je vous remercie beaucoup d'avoir écrit ce livre parce que c'est vrai que c'est une sorte d'ovni littéraire aussi en même temps et c'est vraiment très bienvenu parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de livre, j'ai aucun souvenir de livre qui ressemble à ce genre de choses.
Merci beaucoup.
Puis je ne doute pas que vous serez dans le prochain dictionnaire amoureux des écrivains de littérature qui connaîtra plusieurs éditions. J'espère que vous êtes... Vous aussi, d'ailleurs, Cédric Gras, vous voyez qu'il fait toute sa promo en polo bleu. Donc, il est un peu comme Brice Denis. Il arrive chez lui, il a 30 polos bleus. Et puis... Non, je rigole, mais... Donc, vous avez fait ce livre, ce premier roman, en fait, Anthracite, qui, au fond, réussit à concilier, au fond, toutes vos passions. Donc, je pense que c'est un moment important de votre vie littéraire, puisqu'il y a la passion pour la Russie et l'Ukraine en particulier. Vous avez passé de nombreuses années. Il y a une passion pour l'écriture, il y a une passion pour l'écrivain voyageur que vous avez été jusque-là. Et puis, alors, vous nous racontez là une affaire romanesque en même temps. Vous savez très bien qu'ici, on n'a rien compris à la crise ukrainienne. D'ailleurs, au début, quand on lit votre livre, on se dit « Putain, j'y comprends toujours rien », mais je crois que c'est exprès. Je dis, cette confusion, en fait, elle fait partie de la... Et après, tout s'éclaire au fur et à mesure. On ne comprend pas toujours très bien au début qui veut quitter la Russie, qui veut quitter l'Ukraine, qui ne veut pas. Enfin, puis... Mais ça participe du flou qu'il y a dans ces moments de guerre, et c'est tout à fait passionnant. Donc, je vous la fais courte. Vlad Lenin, il est chef d'orchestre. Ses parents l'ont appelé comme ça parce que Vladimir Lénine, donc ils ont compilé, ils ont serré ça. Il est amoureux d'une violoniste qui s'appelle Essenia. Et puis, un jour, avec son orchestre, pendant les commémorations de la libération de la région du Donbass, il fait jouer l'hymne national ukrainien. Ça ne se passe pas très bien avec les séparatistes qui se mettent à le pourchasser. Et puis, du coup, il doit s'enfuir et il se retrouve à s'enfuir dans une vieille Volga avec son copain Émile, mais avec qui il ne partage pas tout à fait les mêmes idées politiques. Donc, du coup, ils discutent et puis c'est parfois compliqué, vu que les deux essayent désespérément de retrouver leur femme et amante à travers ce conflit difficile. Qui est le conflit ukrainien. Alors, au fond, pourquoi ça vous est venu maintenant? Est-ce que vous avez l'impression que vos livres d'avant ont été des préparations à cela? Pourquoi vous êtes parti sur cette idée romanesque? Parce que vous auriez aussi pu faire un livre, au fond, de voyage, un de plus, dans la guerre d'Ukraine. Pourquoi, là, il y a eu la nécessité du roman?
C'était pas un voyage. Cette fois-ci, moi, j'ai travaillé donc 4 ans à Donetsk. J'ai fondé l'Alliance française. Je l'ai aussi fermée à cause du conflit. Et oui, ça n'arrive pas à tout le monde dans les carrières de directeur d'Alliance française de créer et de fermer. Moi, j'ai eu ce privilège. donc, j'ai évidemment sillonné à partir de Donetsk le Donbass, que je connais très bien. Et quand je dis sillonner, ce n'est pas forcément des voyages à la surface. Hein. C'est beaucoup descendre dans les mines, les hauts fourneaux, la métallurgie. Voilà les endroits intéressants du Donbass, qui en font évidemment une région absolument pas touristique, que personne ne connaissait. Et d'où sans doute ce traitement journalistique qui s'est centré seulement sur le conflit, sans vraiment aborder les profondeurs historiques qui sont évidemment à l'origine des divergences et du conflit, etc. Voilà. Alors, comme je n'avais pas fait de voyage et que moi, je ne savais que faire des récits de voyage jusque-là, je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion d'aborder le roman. Et puis surtout, je pressentais, je n'avais pas encore l'expérience de l'écriture d'un texte de fiction, mais je pressentais qu'à travers des personnages qui, évidemment, ont une histoire, des origines, des opinions, une vie différente, eh bien, on peut, à travers des personnages qui n'existent pas, recréer en vérité une atmosphère de quelque chose qui a vraiment existé. C'est-à-dire d'essayer de recréer cette atmosphère de guerre à travers des choses assez symboliques. C'est pour ça que je me suis emparé de ces deux personnages. L'un est un peu pro-russe, l'autre un peu pro-ukrainien. Il s'appelle Vlad Lenin parce que c'est Vladimir Lénine. C'était des prénoms qui étaient donnés couramment à l'époque. Et l'autre, il s'appelle Émile. Ça a l'air comme ça très, très francophone. C'est d'ailleurs un prénom a priori de chez nous, mais qui était assez donné dans cette région de l'URSS à l'époque à cause, évidemment, des charbonnages, des mines de charbon d'anthracite, d'où le nom du livre, en hommage à Émile Zola, à Germinal, etc. Donc, des Émiles, j'en ai rencontré plusieurs. Il y en a encore beaucoup au Donbass, des gens qui s'appellent Émile. Voilà. Donc, sans rien inventer, d'ailleurs, je n'ai pas fait, moi, dans ce roman, preuve d'une imagination délirante. La guerre était tellement abondante en matière romanesque, en absurdité, en faits divers, qui paraissent délirants, mais qui, malheureusement, ont eu lieu, que je n'ai eu qu'à finalement prendre mon carnet de notes et puis tisser une intrigue pour reprendre le thème du débat d'aujourd'hui à travers ce conflit. Alors, je précise bien que c'est le conflit du Donbass et pas celui de la Crimée, même si évidemment il y a des liens. Mais là, l'intrigue se passe seulement dans l'Est ukrainien, ce qu'on appelle le bassin houillé du Donbass. Voilà.
Comment vous avez travaillé ? Vous êtes dit, bon, ben maintenant, il faut que j'accumule la documentation sur le Donbass, ou bien vous êtes dit, non, mais c'est un roman, donc je laisse aussi mon imagination courir. Comment on fait ? Parce que là, il y a toutes les versions avec les romanciers. Il y en a qui veulent être absolument imbattables sur tous les faits, les descriptions, les rues, les numéros, voyez. Et puis, il y en a qui se disent, bon, ben, si je vais dans le roman, je peux enfin, cette fois, laisser libre cours à quelque chose qui est de l'ordre de l'imaginaire. Alors, vous me dites que vous n'avez pas beaucoup d'imagination, ça transparaît assez peu. Vous n'avez pas d'imagination quand on lit votre roman, qui est un vrai roman d'aventure, au fond.
Oui, parce qu'il y avait une matière romanesque. Cette guerre a été profuse en histoires absolument qui nous paraissent incroyables, mais malheureusement qui ont lieu. Donc, moi, je suis arrivé fin 2010 à Donetsk. La guerre a commencé début 2014. Donc, vous voyez que j'ai eu le temps, moi, d'explorer le Donbass avant et je n'ai pas eu a posteriori à faire des recherches parce que je voulais écrire un roman. J'avais déjà une connaissance importante de par mes petites virées à travers le Donbass, mais aussi de par mon métier. Quand on est directeur d'Alliance française, on est certes, on pratique un métier qui relève de la culture, mais on a aussi évidemment certains statuts dans la ville, notamment dans ces régions un petit peu éloignées des capitales, où le simple fait d'avoir une carte de visite et d'être français vous donne accès à des rencontres dans les milieux d'affaires, dans l'administration locale. Administration locale qui, je le rappelle, était la base arrière du président Yanukovych et qui avait une forte influence. Donc, à partir moi, j'ai pu rencontrer toutes ces personnes qui m'ont convié à visiter leurs industries, qui m'ont raconté beaucoup de choses sur le passé et puis le futur, qui n'aura pas lieu du coup à cause de la guerre, mais ce qu'ils projetaient pour cette région à l'époque, j'avais accumulé pas mal de choses. Donc, à partir du moment où j'ai décidé d'écrire un roman, j'avais déjà la matière. Il me restait évidemment à explorer cette chose que je ne connaissais pas. Moi, je ne suis pas d'une génération qui a connu la guerre. Mais elle est arrivée en bas de chez moi, puisqu'il y a eu des combats, y compris dans le quartier que j'habitais. Voilà.
Est-ce que quand on écrit un livre de ce genre, on se dit justement que c'est le grand thème que l'on veut traiter, c'est-à-dire, en gros, est-ce qu'on veut témoigner de cette guerre auxquels les Occidentaux comprennent souvent rien, voyez ? Ou bien est-ce que vous dites, je vais raconter au fond une histoire d'amour qui pourrait se passer pendant la guerre de 100 ans, pendant la guerre de 40, pendant la guerre de 14, mais il se trouve que là, le décor, c'est le Donbass que vous connaissez. Mais au fond, est-ce qu'il y a chez vous l'idée d'amener les gens à réfléchir sur ce qui s'est passé ou à connaître mieux ce qui s'est passé au Donbass ? Ou il y avait chez vous l'idée de romanesque de raconter cette histoire d'amour dans le fracas de l'histoire ?
Moi, je voulais d'emblée ne pas sortir du clivage pro-russe, pro-ukrainien. J'avais envie de m'emparer de personnages qui étaient des gens du Donbass, qui, dans leur immense majorité, en réalité, n'étaient ni pro-russe ni pro-ukrainien. Ils étaient un peu les deux. Ils voulaient surtout avoir la paix. L'Ukraine est déchirée par des factions extrémistes des deux côtés, très radicalisées, nationalistes en réalité. Que ce soit les Russes ou les Ukrainiens, ce n'est que du nationalisme, l'histoire de la guerre en Ukraine, des deux côtés. Alors, moi, ce que je voulais... Il y a eu énormément de réfugiés. On les a appelés des réfugiés. C'est pas évidemment les migrants syriens qui arrivent démunis chez nous. Ce sont des gens qui ont dû quitter le Donbass et qui sont partis au hasard de leurs liens parentaux, familiaux. Ils sont allés dans ce qu'on appelle des points de chute, tout simplement, soit en Russie, soit en Ukraine, là où ils avaient des cousins, des grands-parents qui pouvaient les accueillir, etc. Donc ils n'étaient pas totalement à la rue, mais ça a été évidemment un grand exil. Aujourd'hui, le Donbass s'est vidé d'une bonne partie de sa population. Et c'est des gens qui n'avaient pas vraiment d'opinion. Et d'ailleurs, ils partaient de manière assez indifférente vers la Russie ou l'Ukraine. La seule chose qui les faisait se décider, c'était savoir qu'est-ce qu'ils allaient trouver. Est-ce que quelqu'un leur offrait un toit ? Est-ce qu'ils avaient des chances de trouver un travail, etc., etc. Donc c'est un petit peu ce qui arrive à mes deux héros. Ils ont évidemment un avis, tout le monde a un avis sur ce genre de choses, mais pas suffisamment pour s'engager d'un côté ou de l'autre, en tout cas. Voilà. Donc, et puis à travers le dialogue de ces deux héros, et qui ne partagent pas exactement la même vision du Donbass, mais qui ne partagent pas non plus la même histoire du Donbass, puisque l'un est chef d'orchestre, fait des tournées en Europe, voire aux États-Unis, etc., et l'autre est encore au fin fond d'une mine d'anthracite et vit évidemment dans une nostalgie de l'URSS, époque où les mineurs, non seulement les mines ne fermaient pas, donc d'abord il n'y avait pas de mineurs au chômage, mais en plus le mineur était un. Jouissait d'un statut et d'une reconnaissance de la société. Voilà.
Est-ce qu'il y en a d'entre parmi vous qui ont des questions déjà pour Sinon, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est quelle est la part d'invention lors de vos personnages ? Est-ce que vous êtes dit, je prends au fond, vous dites, il y a le chef d'orchestre qui a déjà voyagé, effectivement, qui est amoureux de la violoniste, et puis celui qui est au fond de la mine, donc c'est effectivement des personnages qui sont des amis, mais qui sont un peu antinomique, enfin, effectivement, d'une certaine manière. Est-ce que c'est vraiment des gens que vous avez, au fond, posés comme des personnages un peu presque archétypaux pour démonter cette dialectique des nationalismes de l'un ou de l'autre ? Ou bien est-ce que c'est des gens, au fond, que vous êtes inspirés de personnages réels ? Alors, moi, comme il y a beaucoup de choses qui sont réelles dans votre livre, on se demande évidemment si Vlad Lenin, il existe un peu, si vous le connaissez, s'il y a eu un chef d'orchestre ou un peintre, ou je sais pas, un artiste qui vous inspire.
Oui, bah, j'imagine que moi, c'est la première fois que je fais un roman, mais j'imagine que tout le monde procède un petit peu ainsi. C'est pas un personnage, mais c'est. Ces 10 personnages qui font un héros. Quoi. Le fond, la chronologie et les faits qui sont le décor de ce roman sont très fidèles à ce qui s'est passé dans le Donbass. Moi, j'étais là, j'ai assisté à tout ça. Je n'ai pas voulu déformer l'histoire, je n'ai pas voulu en déformer la chronologie. Et tous les événements qui ponctuent un petit peu cette fuite, ce road trip à travers le Donbass, sont des événements absolument véridiques. Quant au personnage, il est évident qu'après avoir vécu... Moi, j'ai 5 ans et demi de vie en Russie et autant en Ukraine, donc je connais assez bien les Slaves, leurs mœurs, leurs habitudes, leurs défauts, c'est tout ce qui fait leur charme. Et je me suis évidemment emparé de tout ce que j'avais pu observer d'amusant chez les gens que je côtoyais pour nourrir le caractère et les folies de mes héros. Mais l'idée du chef d'orchestre m'est venue. Alors d'abord, l'hymne national joué devant les séparatistes ukrainiens pour la fête du 9 mai 2014, c'est un fait divers, ouais. Véridique. Voilà. Alors j'ai un petit peu peut-être exagéré. D'abord, je n'étais pas là sur place. C'est dommage, je suis arrivé en retard. Et on m'a raconté, oui, bah, il vient de se faire vider par les séparatistes puisqu'il a osé jouer l'hymne ukrainien. On est au tout début là, de ce que j'appelle moi la contre-révolution. Il y a eu une révolution à Maïdan et une réaction, on va dire, dans le Donbass. Et puis, bon, moi, j'étais directeur de l'Alliance française, donc qu'est-ce qu'on fait à l'Alliance française ? On ne va pas renseigner le français, évidemment. On s'occupe aussi de promouvoir la culture française, les cultures francophones. Et donc, on a des contacts privilégiés avec tous les établissements culturels de la ville, et notamment à Donetsk, qui est un opéra absolument sublime. Une très belle salle, il y avait une troupe de ballet, un orchestre philharmonique que je fréquentais. Et, voilà. Et puis, ce qui m'avait aussi un petit peu frappé, c'est que bon, ce n'est pas le directeur qui était là en 2014, mais un des chefs d'orchestre, pardon, son prédécesseur, pour mettre du beurre dans les épinards à la fin du mois, était chauffeur de taxi la nuit. Voilà, on pouvait croiser dans les années 90, vous savez, ça a été un drame après la dislocation de l'URSS. Vous aviez des ingénieurs nucléaires, des grands scientifiques, des médecins peut-être, qui étaient condamnés à aller vendre ce qui leur restait dans leur placard sur le marché, ou bien voilà, à faire des heures supplémentaires avec leur voiture pour essayer de nourrir leur famille. Donc, c'était ce que faisaient les chefs de l'orchestre de l'Opéra de Donetsk à une époque. Alors voilà. Comme j'ai beaucoup fréquenté le monde de la culture, c'était un petit peu naturel pour moi. Et puis, bon, quand j'étais adolescent, j'ai joué 7 ans du violon au conservatoire. Alors tout ça, c'était une manière aussi.
C'est vous.
Oui, voilà, c'est ça.
Essenia, c'est vous. Une question de votre part ? Moi, j'en ai une dernière pour le moment. OK, vous l'avez ouverte et fermée, cette alliance française. Je vais dire maintenant, les affaires vont moins mal. Est-ce que je pense que vous y êtes retourné, vous y retournez régulièrement, ou je ne sais pas.
Je ne réponds pas à cette question.
mais est-ce que vous auriez l'ambition de vous dire, mais allez, je vais aller la rouvrir pour le principe.
Ouais, ça ne dépend pas de moi. L'Alliance française ne m'appartient pas. L'Alliance française.
Oui, mais bon.
D'abord, elle n'appartient à personne. Les alliances françaises n'appartiennent pas non plus à l'État français. Ce sont des associations de droit local. Ouais. Donc, vous avez d'où l'intérêt. Du poste de directeur d'Alliance française. Vous gérez en vérité une petite PME locale. Mmh. Vous devez respecter. Vous n'avez aucun passe-droit diplomatique consulaire. Vous ne bénéficiez d'aucun statut spécial. Voilà. Donc vous êtes au front. Vous êtes en première première ligne contre l'administration fiscale, souvent assez corrompue dans ces pays, etc. C'est un métier très formateur et qui nécessite une certaine polyvalence. Donc l'Alliance française, de toute façon, on n'ira pas la rouvrir parce que j'imagine que le cadre juridique associatif de la République populaire de Donetsk aujourd'hui n'est pas très développé. Et puis elle reçoit des subventions, elle est reconnue en tout cas par la Fondation Alliance française à Paris, et elle reçoit des subventions en principe de l'État français qui n'ira jamais accepter de financer une Alliance française dans un territoire qui n'est pas reconnu par la France. Donc il n'est pas question évidemment de rouvrir l'Alliance française là-bas.
Merci. Je vous recommande à tous aussi ce roman parce qu'effectivement... C'est quelque chose d'assez fascinant de se retrouver à la fois plongé dans une aventure romanesque qui est celle qui, évidemment, d'une histoire d'amour et d'une histoire d'amitié. Et puis en même temps, malgré tout, je persiste à penser qu'on comprend quand même un peu mieux la crise ukrainienne et la crise du Donbass après avoir lu votre livre. Donc effectivement, là aussi, c'est un grand thème dans une intrigue au fond amoureuse. Et on a vraiment les deux aspects qui sont magnifiquement racontés dans ce livre. Pierre Souline. Comment vous vous y êtes pris pour choisir ? Donc, les dictionnaires amoureux des écrivains et de la littérature, j'ai l'impression que c'est une somme qui fait aussi... vous avez des années de blog, des années de chronique. Comment vous avez fait un choix ? Parce qu'on a l'impression qu'à la fois, ce livre, on peut le feuilleter n'importe où, on rigole, on se dit, tiens, il y a des tas de choses drôles, il y a des vacheries, il y a des choses très admiratives. Et en même temps, vous auriez pu faire un livre deux fois plus épais ou deux fois plus court. Comment vous y êtes pris pour choisir ça ?
C'est mon bon plaisir, tout simplement. C'est le plaisir de choisir, de sélectionner et donc d'exclure. Mais c'est ce qui me faisait plaisir. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 5 lignes sur Montaigne et 3 pages sur Antoine Blondin. Bon, pourquoi pas. Ça n'a rien d'exhaustif. C'est tout à fait subjectif, arbitraire. Ça obéit à la loi de cette contrainte qui n'en est pas une, qui est celle de la série Dictionnaire amoureux. Et quand on me l'a proposé, j'ai dit, voilà, sachez que ça ne sera pas la gare des Michards. Hein. Et ils m'ont dit, mais justement, c'est ce qu'on veut. Quelque chose de très personnel. Donc voilà, il y a des manques, des oublis volontaires, mais c'est la règle du jeu.
Comment vous avez travaillé enfin, c'est un dictionnaire, donc ça va de A à Z. Est-ce qu'on se dit d'abord, bon, ok, j'écris tout ce qui me passe par la tête, ou j'en écris n'importe comment ?
Chacun fait comme il veut. Il n'y a pas une seule manière de faire. Mm-hmm. Moi, c'est dans la mesure où j'écris sur ces sujets depuis très longtemps, ça fait des années que je pense à faire quelque chose qui serait une sorte de dictionnaire, mais pas spécialement amoureux, pas cette collection. Et donc, j'avais mis.
Donc, vous n'êtes pas amoureux de tout le monde, hein, comme je dis.
Non. Non, sinon, on est amoureux de personne dans ce cas-là. Et donc, j'avais mis de côté depuis pas mal d'années des petits morceaux comme ça. Mm-hmm. Et puis, depuis 3 ans que je sais que je fais ce livre, de temps en temps, au gré de mes lectures, je mets de côté, voilà, dans un fichier. C'est l'intérêt d'avoir un ordinateur, de travailler sur un ordinateur, un fichier que j'alimente régulièrement. Et c'est pour ça que c'est un très grand plaisir de faire un livre comme ça. Non seulement parce qu'on est libre, mais parce que la contrainte d'un roman ou d'un livre qui a une continuité ne se pose pas, puisque c'est fragmentaire. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça, tout simplement.
Est-ce qu'il y a eu, au-delà du bon plaisir et du fait qu'évidemment on demande dans cette collection aux gens de donner le livre le plus personnel possible, est-ce qu'il y a quand même une envie de témoigner de... Votre blog, La République des livres, je l'ai dit, est un des plus suivis. Vous êtes chroniqueur, vous êtes critique littéraire, vous avez fait beaucoup de choses de cet ordre-là. Donc, il y a qu'à un moment donné où on se dit, OK, je prends date et au fond, j'aimerais témoigner de ce qu'a été ou de ce qu'est la littérature française pour moi.
Je témoigne de rien du tout parce que je ne suis pas du tout placé pour témoigner. Et puis, ça serait très prétentieux et même extravagant de croire que je puis témoigner de quelque chose. En revanche... Faire partager ses goûts. Ma première récompense, c'est quand mon éditeur m'a dit j'ai couru acheter un livre d'un inconnu pour moi, qui est Emmanuel Bove, et me dit-il, un livre dont je parle, qui s'appelle Mes Amis, qui est totalement oublié, y compris des Français. Donc, et il en a acheté 10 exemplaires pour l'offrir à ses amis. Ça a été une découverte, une révélation. Eh bien, pour moi, c'était ça le but. C'est toujours la même chose. Hein. C'est la même chose quand on écrit des articles, des critiques un peu partout, ou quand on remet des prix littéraires. C'est faire découvrir des gens. Et c'est transmettre ce que nous, on a aimé. Mais on ne témoigne pas parce que peut-être que les 3/4 des contemporains dont je parle dans 20 ans, on ne saura plus qui c'était. Déjà, il y en a certains, on ne sait plus qui c'est. Mmh. Donc, voilà, c'est faire partager des coups de cœur, c'est faire découvrir des gens, c'est encourager un type de littérature que j'aime, c'est empêcher des classiques d'être totalement dans la naphtaline et les sortir pour dire aux gens, c'est des classiques, mais des classiques modernes. Ne pas oublier, d'ailleurs, c'est marqué là, mmh. classique, la définition de Italo Calvino, qui est la meilleure pour moi, à savoir un classique, c'est quelque chose, c'est une œuvre qui n'a jamais fini de dire ce qu'elle a à dire. Ça veut dire que Montaigne continue à nous parler. Mais si c'est, Platon continue à nous parler, Sénèque aussi, il n'y a pas plus actuel que ça. Tout récemment, quand il y a eu l'affaire tragique de ce prêtre égorgé en France pendant qu'il disait la messe, eh bien, moi, j'ai recommandé aux lecteurs de mon blog de lire « Sous le soleil de Satan » de Bernanos, parce que ça pouvait leur expliquer des choses sur qui était ce prêtre et sur la manière dont on pouvait lire cet événement incompréhensible pour beaucoup de gens. Bernanos nous parle encore énormément, c'est un immense écrivain. Alors, si mon livre, ce dictionnaire, peut faire lire Bernanos à nouveau, j'en serais ravi, parce que c'est un très grand écrivain, c'est un classique moderne, et il n'est pas lu parce que beaucoup de gens se disent « Les héros de Bernanos, ce sont des prêtres qui ont des cas de conscience de prêtres. Aujourd'hui, il n'y a plus de prêtres à cause de la crise des vocations. Donc, finalement, on n'est pas très concerné, ce n'est pas très actuel. » C'est faux. C'est faux. Bernanos nous parle toujours, il parle de la grâce. Il parle de choses qui sont actuelles, mais avec un génie, avec un talent et avec un style, pour dire les choses, qui ne sont plus à la mode, ben, tant pis.
Et vous dites qu'il y a un côté jubilatoire. Est-ce qu'il y a aussi...
Non, non pardon.
Non.
Je ne dirais sûrement pas ça, parce que si vous allez à... Pardonnez-moi.
Oui, oui, non.
Si vous allez à...
À jubilatoire.
Non, à P comme poncif de critique.
Oh merde.
Et vous verrez qu'il y a marqué surtout
ne jamais utiliser.
Et ne fuir les lieux communs de la critique, bon. À savoir... Ça commence par jubilatoire. Je suis désolé.
Je suis désolé. Oui, voilà, autant pour moi.
Je
voilà.
n'ai pas pu dire que oui, c'était oui. jubilatoire.
Non, non, d'accord. Non, vous avez dit que c'était votre bon plaisir, en fait.
Ça, oui.
Oui. Bon, autant pour moi, maintenant j'ai l'air faim, il faut que je trouve un autre adjectif. Alors, enfin, est-ce qu'il y a une part chez vous de volonté de piquer ou de provoquer un peu? Parce qu'il y a effectivement des classiques ou des... Alors, il peut y avoir la provocation de sortir des gens que tout le monde a oublié, ou celle, effectivement, de dire... C'est le petit extrait que j'ai lu sur Umberto Eco.
Il n'y en a pas
dans...
beaucoup. Hein.
Oui, oui, il y en a
vous l'avez trouvé, celui-là. Hein,
oui, mais...
Parce qu'ils sont peu nombreux. C'est vrai que... Non, ce n'est pas le goût de provoquer, de choquer.
Bon, quand même, regardez, c'était juste derrière, alors je l'ai gardé pour la bonne mouche, mais sous écrivaine, vous citez Éric Chevillard. J'espère qu'il y a des féministes énervées parmi vous. Alors, Éric Chevillard avait écrit, vous voyez, vous rigolez déjà. Cela surprendra peut-être, mais j'approuve tout à fait la création récente des termes auteur et écrivaine. Il faut bien pouvoir nommer la femme de l'écrivain.
Je trouve ça excellent. Alors j'ai pas osé, je me suis dit, je vais le citer tel quel. De même, le même Chevillard, dont j'aime beaucoup les aphorismes, le même Chevillard dit c'est très utile. Il vaut mieux écrire à la main qu'avec un ordinateur. Point. Avez-vous déjà essayé de vous gratter le dos avec un ordinateur? J'aime bien ça. C'est le genre d'humour qui me plaît. Alors je l'ai cité de temps en temps. Je me fais plaisir.
Non, mais alors sur l'aspect un peu où vous dites, bon, ok, on me dit de faire un dictionnaire amoureux comme ça, je vais aussi m'amuser à provoquer, à piquer un peu, à oui, aller à contrario.
Il y a les écrivains, mais il y a les livres, il y a la vie littéraire.
Oui, oui, c'est ça.
Les prix littéraires.
Oui, là, c'est ça. Il n'y a pas que des noms d'écrivains, il y a beaucoup de choses. Il y a la bulle de l'écrivain, les entrées de ce dictionnaire ne sont pas juste des noms d'écrivains.
Voilà. Parfois, des livres tout seuls, parce que. On vous demande toujours quel est votre écrivain préféré, etc. Or, il y a les écrivains que j'aime dans leur totalité, mais très souvent, j'aime un livre d'un écrivain, par exemple, et j'ai envie de faire lire ce livre. Parce que si je dis aux gens, lisez Claudio Magris, ils vont me dire, oh, c'est compliqué, c'est difficile, il y a beaucoup de livres et tout. Si je leur dis, n'en lisez qu'un, Danube, j'ai plus de chances d'aboutir. Moi, ce que je veux, c'est faire partager mes enthousiasmes, qui sont nombreux. Et si je leur dis, lisez Alfred Döblin, ils vont me dire, mais Alfred Döblin, il est mort il y a longtemps. Et si je leur dis, mais non, lisez Berlin-Alexanderplatz, c'est là qu'on a inventé, qu'on a introduit la ville moderne dans la littérature contemporaine, la ville grouillante, Berlin en l'occurrence, alors peut-être que ça va les faire. Vous voyez. Donc, voilà, je consacre des entrées à des villes, à des, parfois à des thèmes, à des détails minuscules, à des livres, livre par livre. Je pense que c'est plus efficace.
Est-ce que l'un d'entre vous a une question pour eux ? Ah, oui. Madame ?
Vous avez été jusqu'à X, Y, Z, votre dictionnaire ?
Oui, Z comme Zweig. Stéphane Zweig.
Et X comme ?
X, je ne sais pas, regardez.
Ouais, j'ai vu. J'ai pas tout lu encore.
Je me rappelle de tout, moi.
Je vais regarder ce qu'il y a sous X, parce que c'est plus dur, X.
Peut-être qu'X, il doit y avoir...
Il n'y a rien sous X.
Ben voilà,
c'est pas... Ben, c'est sous X, quoi. Il n'y a pas sous X. Ça passe de W à Z.
Il y a Y, c'est Yourcenar. Ben oui, ouais. Quand même. Z comme Zweig, et je crois que c'est le dernier. Attendez, le pauvre, moi, je m'appelle A, hein, j'ai de la chance, mais lui, ZW. À l'école, c'est toujours le dernier. Hein.
Mais il y a, Q comme quatrième de couverture, ce qui est assez drôle.
Oui, quatrième de couverture, vous savez, c'est le dos du livre. C'est là où, une fois sur deux, mais heureusement, vous deux, vous y avez échappé, je crois me souvenir, une fois sur deux, l'éditeur écrit, c'est le nouveau Steinbeck. C'est la nouvelle Yourcenar.
Non, ça c'est moi qui écris en général. C'est les mêmes types qui utilisent le mot jubilatoire.
C'est Yourcenar en plus jubilatoire encore.
Pierre Assoline, on va bientôt malheureusement toucher au port. Comment il y a une question au fond qui revient toujours. Alors quand on écrit un dictionnaire, même extrêmement personnel, on est habilité pour donner une réponse. Donc vous écrivez beaucoup sur la littérature d'aujourd'hui. On a toujours un peu l'impression que les gens disent ouais, mais les grands écrivains c'est fini, la littérature c'est fini, il y a plus de grands écrivains. Qui sont les grands écrivains aujourd'hui ? Enfin, il y a une sorte de vieux conisme permanent qui d'ailleurs fait partie de l'histoire littéraire, j'imagine. Vous êtes à la sortie de ce dictionnaire amoureux des écrivains et de la littérature. Il y a beaucoup de noms finalement assez récents ou d'anecdotes qui sont très récentes. Comment va la littérature française ouais, ou comment bien. Va la littérature
non, la littérature, ah oui. Moi je dirais pas française déjà.
Oui, bah, d'ailleurs il y a beaucoup de
la littérature de langue française, ah, oui. Ce qui inclut les Suisses, les Belges, les Québécois, un certain nombre de gens. Donc littérature de langue française, c'est ça qui compte. On est écrivain français, qu'on écrit en français, c'est tout. C'est la langue qui vous définit. Donc c'est quand même. Vous êtes suisse vous?
Oui.
Ben alors, c'est vous qui dites écrivain français.
Non, ouais, c'est... Vraiment, ce n'est pas ma journée avec vous.
Non, mais je ne sais pas, mais quand même, on est en Suisse et vous êtes suisse et vous enfermez la littérature française dans la littérature écrite par des Français. Non, c'est le comble. Et
c'est, moi non, qui défend... c'est au contraire l'habitude du chauvinisme français qui m'a fait à un moment donné croire que vous aviez parlé.
Non, non, sûrement pas. Ben, en tout cas, c'est tout sauf chauvin.
C'est vrai.
Vous avez
remarqué. Il y a plein d'écrivains anglo-saxons, surtout grecs.
Ce qui compte, c'est que la littérature soit vivante, qu'elle soit de langue française ou étrangère, puisque nous avons la chance en France que 20% de ce qui paraît est traduit de l'étranger. C'est le pays au monde qui traduit le plus de littérature étrangère. Alors, bravo les traducteurs, bravo les éditeurs. La littérature mondiale se porte bien. Il y a beaucoup de très, très bons écrivains. Il y a beaucoup de très bons livres. Et ceux qui se lamentent, qui sachent une chose, j'ai lu pratiquement un siècle de collections de journaux littéraires, les nouvelles littéraires, tout ça, pour faire Gaston Gallimard. Hein. Ceux qui aujourd'hui se plaignent de tout ce dont ils se plaignent, trop de livres, pas assez de grands écrivains, pas de relève, tout ça, c'est dans les nouvelles littéraires des années 20, des années 30, déjà à l'époque. Les éditeurs, les libraires, les écrivains, le public se plaignaient de la même manière. Les lamentations n'ont pas changé, elles sont intemporelles. Donc c'est pour ça que ce n'est pas grave. Quand j'entends dire qu'il y a trop de livres, qu'on est sous une avalanche de livres, que les grands écrivains, c'est fini, etc., je me dis, je pense avec le sourire, parce que je sais, c'est ma conviction profonde, que c'est faux.
Merci beaucoup. Alors je vous remercie tous les trois. Pierre Assoline, Isabelle Kaufmann, Cédric Gras. J'imagine que tout l'après-midi, vous allez signer vos livres par kilo sous la tente. Donc j'invite tous ceux qui n'ont pas encore ces trois livres d'aller en faire l'emplette sitôt sortis de ce bateau et d'aller ensuite se précipiter à la maison pour les lire. Et alors, méfiez-vous du livre d'Assoline parce qu'effectivement, ça peut vous coûter cher ensuite, parce qu'effectivement, il a cité le cas de Emmanuel Boeuf, ou j'ai une bêtise, Emmanuel. Et donc, ça vous donne plutôt envie d'acheter d'autres livres, en fait, ce qui est le but, finalement. Merci.